Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du collectif Éco-Mouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à la transition écologique, sociale et solidaire. Toutes les semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants qui nous guident vers un monde meilleur. C'est parti, bonne écoute!
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marine du collectif Éco-Mouvement et on accueille aujourd'hui Soraya Fetti, chargée de campagne chez 350.org et militante du mouvement Stop ICOP. Cette interview portera sur le projet ICOP de Total Énergie.
Bonjour Soraya.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est ICOP et ce qu'est le mouvement Stop ICOP dont tu fais partie ?
Alors, du coup, ICOP, E-A-C-O-P, c'est pour East African Crude Oil Pipeline. C'est un projet de méga-oléoduc de 1443 km de long, porté par Total en majorité, et qui, s'il voit le jour, transportera du pétrole brut chauffé à 50 degrés en permanence à travers l'Ouganda et la Tanzanie.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi dit-on que ce projet est climaticide ? Pourquoi surtout le mouvement Stop ICOP dit que ce projet est climaticide ?
Alors déjà, du coup, il y a à l'annonce de ce projet et au vu des conséquences qu'il s'apprêtait et qu'il s'apprête toujours à avoir sur les populations locales et sur le climat plus globalement, il y a une coalition internationale qui s'est mise en place, la coalition Stop ICOP, il y a plusieurs années. Dans cette coalition, on retrouve des organisations de la société civile ougandaise et aussi tanzanienne, mais également des ONG internationales, parmi lesquelles 350.org, mais aussi les Amis de la Terre, Banktrack et bien d'autres.
D'accord.
Pourquoi... Pardon.
Historiquement, est-ce que historiquement, ça a commencé quand, ce mouvement avec toutes ces organisations ?
Je dirais autour de 2017.
2017.
Notamment avec les premières publications au sujet des conséquences néfastes du projet, avec les premiers rapports publiés par les Amis de la Terre.
D'accord. Et donc, tu es en train de nous dire que ce projet a des conséquences sur le climat, mais aussi sur l'environnement, je suppose, et la biodiversité. On peut élargir un petit peu, en fait.
Exactement. Déjà, sur les droits humains, ce projet, ce projet, s'il voit le jour, va exproprier, et ça a déjà commencé d'ailleurs, plus de 110 000 personnes. On a compté 118 000 personnes qui sont aujourd'hui limitées dans leur culture, dans leur mode de vie, car Total et le gouvernement ougandais ne les autorisent qu'à cultiver à certains moments et certaines plantations, ce qui change totalement leurs habitudes de culture et les met dans une certaine détresse financière. Aussi, les personnes qui s'opposent au projet depuis le début de la mobilisation font face à des menaces constantes et à du harcèlement. C'est le cas de plusieurs personnes qui se sont retrouvées en prison parce qu'ils ont émis une opposition au projet ICOP. Après, pour les autres aspects, en vrai, il y en a beaucoup, malheureusement. Déjà, un projet qui, s'il voit le jour, émettra un sixième des émissions annuelles de l'Ouganda, de gaz à effet de serre, ça ne peut pas être quelque chose de bon.
Non. Surtout qu'en ce moment, on est plutôt normalement dans une logique de diminution de nos gaz à effet de serre. Et là, c'est un projet qui va à l'encontre de nos objectifs, en fait.
Exactement. Le GIEC a été clair. Plus aucun projet d'énergie fossile ne doit voir le jour si on veut espérer limiter au maximum les impacts du dérèglement climatique. ICOP, comme les 23 à 24 autres bombes climatiques de Total, ne rentrent pas du tout dans ces recommandations. Et donc, en plus de l'impact sur le climat, avec tout ce que ça émettrait de pollution, on parle de jusqu'à 34 millions de tonnes de CO2 par an émis dans l'atmosphère. On a aussi un projet qui prévoit de traverser, par exemple, le lac Victoria. Et en fait, le lac Victoria, c'est une source dont dépendent 40 millions de personnes en Afrique pour leur accès à l'eau potable. Il suffit juste d'une fuite, ce qui arrive constamment sur les pipelines pour que cet accès à l'eau potable soit totalement compromis. Sans compter évidemment les conséquences directes sur les populations du lac, qui est un vivier sans pareil en Afrique, et où se retrouvent beaucoup d'espèces endémiques de la région. Et pour continuer sur les espèces de la région, celles qu'on connaît le plus, évidemment, sont les éléphants, les singes et les girafes. Eh bien, même ces espèces-là souffrent déjà de l'existence même préliminaire de ce projet, puisque pour qu'ils voient le jour, on construit des routes, on goudronne des zones qui jusque-là ne l'étaient pas, on soulève énormément de terre, énormément de poussière avec des marteaux-piqueurs, des grosses machines qui sont là en fait pour déblayer, pour construire notamment une usine qui permettra le traitement de ce pétrole, un aéroport qui permettra l'acheminement des barils. Et en fait, toutes ces constructions-là perturbent l'environnement, l'habitat naturel de ces espèces. Et pour citer des exemples, on a des reptiles et des singes qui meurent ou sont blessés parce qu'une route goudronnée sur leur passage habituel qui retient totalement la chaleur dans un pays comme Ouganda, bah ça leur fait très très mal. Mais on a aussi du coup des éléphants qui, apeurés par toutes ces poussières et tous ces sons, se déplacent là où habituellement ils ne vont pas, se retrouvent à détruire des cultures. Et en fait, les personnes sur place qui dépendent de ces cultures pour leur survie se retrouvent obligées de repousser ces bêtes. Et parfois, quand on a une bête de plusieurs tonnes en face de nous, par des moyens violents.
Oui, c'est sûr que ça va être compliqué. En fait, on empiète déjà sur l'espace de la biodiversité, c'est alors même que le projet n'est pas encore abouti.
Non, c'est ça, c'est exactement ça. Et là encore, en fait, il y a toute une liste qui est assez longue et ça prendrait du temps de la citer de manière exhaustive. Mais on a en effet, par exemple, aussi de la déforestation, beaucoup de déforestation pour permettre le passage du pipeline.
D'accord. Et justement, toute cette déforestation, tu parlais aussi des personnes sur place qui doivent intervenir. Ça a donc une incidence sur le plan social, sur la vie là-bas. Il y a énormément, je pense, de conséquences. Est-ce que tu pourras nous en parler aussi de ces conséquences sur le plan social?
Oui, plusieurs aspects. Bon, déjà, je l'évoquais, la répression pour les personnes qui se mobilisent contre le projet. On a des ONG qui se sont retrouvées à avoir leur bureau totalement saccagé, des documents volés parce qu'elles s'opposent au projet. On a aussi des personnes comme vous et moi, des citoyens, citoyennes, qui, parce qu'ils ont émis des doutes ou une opposition au projet ICOP, ou se sont plaints des conditions qui leur étaient imposées, se sont retrouvées à recevoir des menaces. Et ce projet-là, les personnes affectées, on les appelle les PAP, ont été approchés par Total, qui leur a promis des nouvelles maisons pour les personnes déplacées, qui leur ont promis des compensations financières aussi. Ce qui se passe, c'est que bon, les compensations financières, déjà, elles ne sont pas là. Ça fait des années qu'elles sont attendues. Et quand elles sont proposées, déjà, elles sont imposées.
Elles ne sont pas à la hauteur aussi.
Et en plus, elles ne sont pas à la hauteur, exactement. Pour beaucoup de personnes, c'est aussi la perte de leur activité. Et pour des enfants, la fin de leur accès à l'éducation. On a l'exemple d'une personne qui, jusque-là, avait une entreprise de collecte de miel. Elle avait des ruches et son terrain a été accaparé par l'État pour les besoins du projet ICOP. Et il s'est retrouvé à perdre ses ruches. En fait, en perdant ses ruches, donc en perdant son activité, il a perdu ses moyens de subsistance financière. Et du coup, n'ayant plus cet argent pour envoyer ses enfants à l'école, c'est ce qu'il nous disait, c'est qu'il ne peut juste plus les envoyer à l'école. Donc ça, c'est les conséquences déjà directes du projet, du fait des futures expropriations. Et pareil pour les maisons, elles ne sont pas là. Elles n'ont pas été promises et on a également le cas de plusieurs personnes qui se retrouvent à devoir vivre avec leurs enfants de plus de 18 ans dans une maison qu'ils ont construite eux-mêmes de fortune. Et sauf qu'en fait, culturellement, pour ces personnes-là, c'est très compliqué de continuer à vivre avec leurs enfants âgés dans la même maison. fait, c'est même un impact sur la culture même des populations locales. Et pour continuer sur le sujet de leur culture et leurs coutumes, il y a quelque chose qui est tellement, tellement horrifiant. Sur le passage du pipeline se trouvent des tombes. Parce qu'en fait, pareil, culturellement, il y a des populations locales qui enterrent leurs morts sur leur terrain.
Oui, bah, ce qui paraît tout à fait plausible.
Voilà. Et du coup, Total n'a pas totalement ignoré cette composante du projet, puisque il a été proposé d'enlever de terre des corps, ce qui est horrible pour les familles concernées, et de les replacer ailleurs ou de les mettre dans des boîtes. Mais il y a, bon, déjà, c'est assez horrible, mais il y a une autre chose, c'est que ça, ce sera le cas pour les tombes qui sont marquées. Mais, en fait, c'est plus souvent le cas pour les tombes de personnes de familles chrétiennes, mais celles de familles musulmanes le sont souvent beaucoup moins. Donc là, ce qui se passe, c'est que au mieux, Total va tomber dessus et les mettra quelque part des ossements dans une petite boîte et leur donnera. Au pire, ils vont soulever les tombes et juste passer par-dessus.
Justement, sur place, est-ce que les militants, j'ai bien compris que les gens qui étaient contre ce projet se faisaient donc arrêter, embêter. Est-ce que ça les a justement mis encore plus en colère? Est-ce que ça les a freinés? Ou est-ce que justement il y a de plus en plus de personnes à se mobiliser?
Il y a une composante que nous, on n'a pas ou pas encore en France, là-bas, c'est que les gouvernements en place en Ouganda et en Tanzanie sont des dictatures. Et donc, par rapport au projet ICOP, pendant très longtemps, la majorité de l'information que les gens recevaient, c'était une information contrôlée par le gouvernement, avec aucune place pour la contradiction. Donc c'était à la fois pour eux une petite menace que d'avoir des gens qui se mobilisent sur le sujet, et en même temps une menace qu'on peut plus facilement contrôler. L'année dernière, il y a une délégation d'activistes ougandais qui est venu en France, et cette délégation était composée de 4 personnes, dont Vanessa Nakate et Hilda Flavia Nakabuye du mouvement Fridays for Future Uganda, et Maxwell et Hilda qui respectivement font partie du Tasha Institute et de Afiego, qui sont des organisations locales ougandaises. Et ces personnes, quand elles sont venues, elles ont été très claires: nous, sur place, on ne peut pas s'exprimer librement. On fait face à une répression accrue. Maxwell a été arrêté plusieurs fois et il est obligé de pointer au poste de police régulièrement, toujours en Ouganda. Ça a été un miracle qu'on l'ait laissé venir jusqu'en France. Et ça, du coup, ça a été un appel de soutien de leur part, et c'est comme ça que la mobilisation en France s'est lancée. C'est vraiment en soutien à celles qui avaient déjà débuté sur place. Et ça a pris. Première prise de parole. Pardon, excusez-moi. Leur première prise de parole s'est faite lors de la marche pour le climat nationale du 12 mars 2022. Et après ça, un enchaînement de rendez-vous qu'on a mis en place avec les médias, avec des politiques et des organisations de la société civile. Et c'est comme ça que les mouvements ont pris de l'ampleur. On est parti de Stop ICOP, qui aujourd'hui s'est transformé en Stop Total. Et donc plus largement le collectif Stop Total. Pourquoi Stop Total? Déjà parce qu'on ne peut pas tout brander entre guillemets Stop ICOP. Il y a une coalition qui existe qui du coup peut subir les conséquences de nos activités sur place, en fait. Si nous on décide d'aller faire de la désobéissance civile auprès de Total, il ne faudrait pas non plus que ça ait des conséquences néfastes sur les populations là-bas. Oui. Parce qu'il faut réfléchir à ces choses-là quand on travaille et quand on fait nos activités. Et du coup, c'est là où je voulais en venir. C'est que la mobilisation a tellement bien prise que bah, y a eu une réaction premièrement du gouvernement en Ouganda de plutôt se dresser vers l'Europe, contre l'Europe et contre notre mobilisation, voire même de se justifier du moi j'en veux pas de ce projet, c'est Total qui a insisté. Et ça a eu un espèce d'effet un peu protecteur sur le moment pour les personnes qui ont parlé, qui ont pris la parole et qui sont venues, et ensuite quand ils sont revenus. Mais il y a eu un effet boomerang assez malheureux, c'est que quelques semaines après, il y a eu l'interpellation par une activiste polonaise de Macron au sujet d'ICOP. Et cette interpellation a fait la une en Ouganda. Et c'est là que la répression a repris. Parce que d'avoir un président qui prend la parole sur le sujet, ça a fait que là-bas, ils se sont sentis menacés pour la pérennité de leur petit arrangement avec Total, enfin leur gros arrangement avec Total. Donc la répression existe toujours, mais le sujet est plus international, donc en fait, il y a plus de soutien possible, mais malheureusement, il y a aussi toujours des risques. Et hier, non, avant-hier, le 26 avril, avait lieu le procès de 9 étudiants qui militaient contre contre le projet ICOP et qui se sont fait brutalement arrêter il y a déjà de cela quelques mois.
Je voulais justement te poser la question sur quels sont vos objectifs, si tu devais vraiment les évoquer précisément, et quels sont les types d'actions que Stop Total met en place pour atteindre ces objectifs?
L'objectif le plus clair et le plus évident, c'est d'empêcher la mise en place de ce projet. Le projet devait déjà être en activité depuis 2021. On est en 2023 et c'est toujours pas le cas. Donc c'est la preuve pour nous que la mobilisation fonctionne, pour peu qu'elle soit massive et concertée et solidaire. On en est à plus de 22 banques qui se sont retirées du projet, qui ont décidé de ne pas financer le projet. D'ailleurs, aucune banque française ne le fera. Elles se sont toutes retirées. Et 24 assureurs et réassureurs, peut-être plus, qui se sont aussi retirés du projet. Donc, pour qu'un projet qui coûte si cher puisse voir le jour, il faut qu'il y ait des assureurs derrière qui couvrent potentiel risque et une partie du coût du projet. Écoutez, il devait coûter 3 milliards, il en est à un coût de plus de 5 milliards. Et il y a quelques semaines, Total annonçait de nouveau, alors qu'ils avaient dit que les financements seraient bouclés pour le début de l'année 2023, ils ont annoncé que la nouvelle date serait plutôt pour la fin de l'année 2023. Et en fait, il y a eu plusieurs reports comme ça, c'est pas le premier.
D'accord, ah oui, c'est pas le premier, donc c'est quelque chose qui pourrait arriver de nouveau, en fait.
Voilà. Donc le but, c'est que le projet ne voit pas le jour. Mais en fait, on ne peut pas se contenter de ça. Si ICOP ne voit pas le jour, d'autres projets peuvent voir le jour, que ce soit en Ouganda ou ailleurs. C'est pour ça que c'est plus largement Stop Total. En se concentrant sur ICOP, on espère faire un effet domino en empêchant le projet ICOP, que ça ait des conséquences, que ça fasse jurisprudence et que ça ait des conséquences sur les autres bombes climatiques de Total et que celles-ci ne voient pas le jour également. Mais en fait, on ne peut pas se contenter de juste stopper le projet ou les projets. Il faut des alternatives. Quand on évoque le sujet du développement économique de l'Ouganda, avec des arguments légitimes de les pays dits du Nord se sont enrichis et développés sur les énergies fossiles, nous, on a la possibilité en Ouganda d'en exploiter pendant 50 ans. Pourquoi vous nous en empêchez? Bon, déjà. C'est pas nous, on vient en soutien à un appel sur place, on ne se permettrait pas en fait. Et à côté de ça, il y a des alternatives. Nous, on a des personnes qui font partie de la société civile ougandaise qui nous l'ont dit, que ce soit Diana pour Affiego et plus largement Affiego, ou Hilda qui prenait la parole pour Fridays for Future Ouganda, qui supplie le Nord d'arrêter de venir se gaver de leurs ressources et de plutôt les aider à développer une transition juste pour tous et toutes. Les projets d'énergie verte en Ouganda ont énormément de potentiel pour un pays qui est exposé au soleil à longueur d'année et qui bénéficierait de plusieurs millions de nouveaux emplois si jamais on décidait de vraiment s'investir dans le sujet.
Stop Total se fait des actions dans ce sens aussi. pour soutenir le développement de l'économie de l'Ouganda, par exemple.
Exactement. Donc pour l'instant, la majorité de nos actions se concentre sur Total et ses soutiens pour continuer à faire pression pour qu'ils votent, par exemple, lors de l'Assemblée générale contre le plan climat de Total, qu'ils fassent pression en interne pour demander la fin du projet ICOP, mais aussi pour couper les flux financiers qui vont vers Total et vers ses projets.
D'accord.
C'est pour ça que là, en France, on est beaucoup concentré sur Crédit Agricole et sa filiale Amundi, qui sont respectivement le principal financeur et le premier actionnaire de Total. Ils ont donc un poids vraiment conséquent sur l'organisation, sur la multinationale qu'est Total. Ensuite, en effet, oui, là, c'est une séquence qu'on veut amorcer, c'est de continuer à porter les demandes qui viennent directement de la société civile ougandaise et tanzanienne. Et parmi ces demandes, il y a le fait de trouver des financements, aider à développer des financements qui iraient vers les énergies vertes dans leur pays.
Et est-ce que, en termes de type d'action, est-ce que vous faites aussi des actions de désobéissance civile pour faire pression? Justement, qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous avez un exemple?
Ce qui est très chouette dans le cadre de cette campagne, c'est qu'on est vraiment une coalition très variée et complémentaire. Si nous, on ne fait pas systématiquement d'actions de désobéissance civile, on a des partenaires comme XR, comme Alternatiba, qui, elles, eux, sont plus actifs dans ces modes d'action. Après, il faut rappeler qu'on n'est pas tous égaux. Face à la répression policière, face à la justice, face à l'État. Et donc, on n'a pas tous, par exemple, la capacité de marcher et de courir lors d'une action, ou de voir ou d'entendre. Les personnes racisées ne subissent pas les retours, les coups de bâton de la même manière que d'autres groupes. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va privilégier des modes d'action variés pour que chacun puisse s'y retrouver.
D'accord.
Et dans la désobéissance, il y a des actions qui se font, désobéissance civile. Ça va du plus gentil avec de l'affichage sauvage un peu partout qui dénonce les bénéfices dégueulasses de Total année après année. Jusqu'au fait de l'année dernière, Alternatiba et trois autres organisations avaient organisé un blocage de l'Assemblée générale de Total, ou la repeinte de bâtiments par d'autres groupes, etc., etc.
Oui, bien sûr.
Après, il y a des choses qui se font aussi en ligne, par les réseaux sociaux. Il y a le fait d'envoyer énormément d'emails d'un coup à des PDG ou des personnes clés pour qu'elles n'aient que d'autres choix que de voir nos demandes. Pour le coup, quand on reçoit 4 500 emails d'un coup, on a tendance à pas pouvoir les ignorer.
C'est un petit peu comme le principe de taguer sur les posts Instagram ou autres en masse, avoir un effet de masse pour que la personne ne puisse pas passer à côté de l'info
Exactement.
en fait.
C'est ça, exactement. Et dans le cadre de la campagne ICOP, on a aussi le super soutien de créatrices de contenu, notamment Camille Etienne, qui s'est beaucoup impliquée dans la campagne depuis son lancement en France l'année dernière. Enfin, elle existait déjà en France, mais je veux dire la mobilisation en France. Et d'autres personnes qui ont suivi sur les thématiques diverses. Qui tombe sous le coup de cette campagne. On parle du climat, mais ça touche aussi aux droits humains, ça touche aussi à la biodiversité et ça touche aussi au sujet qui en est même la racine, le colonialisme.
Oui, c'est vrai que ça touche énormément de sujets. C'est très riche en tout cas. Dès qu'on pose le doigt et qu'on s'intéresse un petit peu à ce sujet, on n'a pas fini. On a l'impression qu'il y a toujours quelque chose à aller creuser, à aller découvrir.
Exactement.
Et du coup, je voulais te demander, Où en est le projet aujourd'hui? C'est vraiment la date est repoussée, mais eux, Total, comment ils voient, ils en sont où en fait dans le projet exactement?
Alors, même si la date de bouclage des financements a été repoussée, malheureusement, ça ne veut pas dire qu'ils n'avancent pas sur le projet. Aujourd'hui, des installations sont déjà plus ou moins terminées, donc ce qui permet de traiter, d'acheminer, d'envoyer les barils. Par exemple, il y a une usine de traitement, il y a un aéroport national, des routes qui se font. Donc, même si le projet finit par ne pas totalement voir le jour, il y aura des conséquences à traiter de toute façon et qui sont déjà en train d'être traitées plus ou moins difficilement puisqu'il n'y a pas tant le soutien de l'État sur ces sujets. Et donc, en plus de ça, depuis février, les premiers forages ont commencé.
D'accord. Ah oui.
Voilà. Forage ne veut pas dire que le pipeline est construit, et encore moins qu'il est terminé et qu'il est opérationnel, mais c'est pour nous le signe qu'on doit redoubler d'efforts. Et de toute façon, même s'il venait à voir le jour, ce contre quoi on va continuer à s'évertuer, la lutte ne s'arrêtera pas. Il y a des projets qui se sont déjà vus stoppés alors qu'ils étaient lancés. Et donc, nous, on sait avec l'histoire de la lutte contre les projets des énergies fossiles que ça ne se terminera pas le jour où, qu'on ne souhaite pas encore une fois, où on nous dira c'est bon, les financements sont bouclés, y a là, on y va. Nous, ce qu'on veut, c'est stopper le projet. Si jamais ça ne se passe pas, on continuera la lutte pour continuer à le stopper et en parallèle de faire du plaidoyer auprès de nos institutions et de faire de l'éducation aussi là-bas sur le terrain pour la promotion des énergies vertes par et pour les populations concernées et de trouver, de les aider à trouver des financements justement pour faire ce travail d'éducation, justement pour faire ce travail de formation et de financement de ces projets-là. Donc idéalement, on le stoppe avant qu'il existe, parce que ça limitera les conséquences.
Bien sûr.
S'il faut, on le stoppe plus tard, mais il y aura d'autres conséquences.
D'accord, oui.
Et dans tous les cas, on travaille à ce qu'il y ait des financements qui soient envoyés vers ces pays-là. Des financements, encore une fois, c'est pas juste n'importe quel financement. On va pas aller voir la Banque mondiale qui va nous sortir un plan pour dire oui, on finance, mais vous arrêtez de manger pendant un an. Mais donc des financements justes et pas conditionnés, encore une fois, de manière très patriarcale et coloniale, quoi. Faites ce que je vous dis et telle chose pour mon économie et en échange, je vous donne un peu d'argent, mais vraiment des financements justes. Et puis on
Et
lâchera pas
voilà,
l'affaire.
vous allez persévérer et rien lâcher. Et puis, effectivement, il y a toujours quelque chose à faire, même si le projet voit le jour, il y aura de toute façon des choses à faire.
Exact.
Est-ce que tu as un message à faire passer à notre communauté? Un
Oui,
mot
oui, avec plaisir. Bon, déjà, si vous pensez que agir pour le climat et agir tout court, c'est forcément se mettre en porte-à-faux avec la police, aller s'enchaîner quelque part ou jeter une boîte de soupe sur un tableau. Sachez que la mobilisation, elle a plein de formes. On se mobilise déjà, ça commence quand on like un post sur Instagram, qu'on partage dans sa story un post sur une campagne, sur les témoignages de personnes affectées. C'est déjà là que la mobilisation commence. Mais en effet, vous pouvez continuer de le faire par plein d'autres moyens. En parler autour de vous, c'est déjà se mobiliser. Se renseigner sur le sujet, c'est aussi se mobiliser. Et oui, en effet, aller sur le terrain, pointer du doigt directement celles qui sont les causes de la situation dans laquelle on est aujourd'hui et de l'urgence à laquelle on fait face, c'est aussi se mobiliser. Et on a vraiment envie de le faire tous ensemble parce que il n'y a que tous ensemble qu'on pourra y... Une phrase qu'on a dite, notamment dans le documentaire ICOP, A Crude Reality, ils ont des milliards, mais nous, on est des millions. Et c'est en atteignant cette masse critique qu'on pourra réellement limiter les impacts du dérèglement climatique. On ne peut plus, et on n'a jamais pu, je pense, compter sur nos institutions étatiques pour prendre ces décisions pour nous. Très rarement, voire jamais, des droits ont été acquis simplement parce qu'on a bien voulu nous les donner. Les droits que nous avons aujourd'hui sont quasiment tous le résultat de luttes que peut-être vous n'avez pas connues, que je n'ai pas connues, et peut-être que nos enfants bénéficieront des luttes, des droits que nous avons engendrés, mais dont on ne pourra pas bénéficier. Et ça s'appelle la solidarité. Wow. Agir en France, c'est permettre aussi à ce que des personnes ailleurs puissent également jouir d'un avenir propre et juste. Voilà, c'était juste pour dire que agir pour le climat, c'est pas que s'enchaîner quelque part. Il y a plein de formes de le faire. Et si vous voulez vous enchaîner, franchement, c'est trop cool aussi. Parce que ça fait parler du sujet. On a besoin d'en parler, on a besoin de mobiliser. Et le climat, c'est aussi les droits humains, c'est aussi les droits des femmes, c'est aussi les migrations, c'est aussi le colonialisme, l'antiracisme. Parce que les premiers et premières concernés par les impacts du dérèglement climatique restent malheureusement... les femmes et les personnes racisées dans les pays dits du Sud et en Occident également. Donc, nos luttes sont toutes liées. Il ne reste plus qu'à s'en saisir.
Eh ben, merci beaucoup pour ton message. Très beau. Et avant de nous quitter, est-ce qu'on peut suivre Stop Total, du coup, quelque part, ou est-ce qu'on peut vous suivre, vous rejoindre?
Oui, avec plaisir, ce serait trop chouette. Bon, déjà, vous avez notre site web 350.org où vous pouvez voir nos différentes campagnes. Mais pour Stop Total, on a eu le plaisir de travailler longuement sur un site internet qui s'appelle stoptotal.fr. Sur le site stoptotal.fr, vous pouvez retrouver des kits d'action, un formulaire pour vous inscrire et participer aux prochaines réunions d'onboarding pour nous rejoindre. Il y a des actions qui sont en cours, il y a des moyens de s'informer. Et là, dans ce qui se passe en ce moment, là, tout dernièrement, il y a le bruit qui court avec lequel on a collaboré, qui a fait un super canular qui s'appelle WECOP, W-E-C-O-P. Vous pouvez voir la vidéo sur StopICOP sur Instagram, mais aussi sur les pages LinkedIn et Instagram et Twitter qu'ils ont créées, WECOP, c'est très fun. Et là, d'ici un mois, il va y avoir l'AG de Total. On s'est associé avec plusieurs autres organisations de la société civile pour mettre en place cette séquence dont le point d'orgue sera le futur blocage de l'AG de Total. Et entre-temps, vous avez plusieurs autres actions sur lesquelles vous pouvez vous mobiliser avec nous. Donc, n'hésitez pas à... Voilà, c'est ça. Il y aura plein de choses à faire et plein de moyens de le faire. Donc, tout le monde peut s'y retrouver.
Chacun peut trouver, en tout cas, sa place. Où je pense que si on se penche, on peut trouver des moyens adaptés à ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire.
Exactement. Et on tente d'être inclusif. Donc, pas de pression sur les gens. Il y a toujours une manière de faire qui peut vous convenir. Encore une fois, le plus petit geste vient s'accumuler. Et tous ensemble, si on accumule tout ça, on peut atteindre une vraie masse critique.
Eh ben, c'est parfait. Merci encore, Soraya, de nous avoir donné de ton temps. Et merci pour cet échange.
Merci beaucoup. J'espère que c'était compréhensible et c'était un plaisir dans tous les cas.
Merci. Et ben merci aussi aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous aura plu et peut-être, on espère, vous aura motivé à agir, à vous engager. N'hésitez pas à partager ce podcast. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. Et si tu as des suggestions pour les prochaines interviews, n'hésite pas à nous contacter sur notre page Instagram. Nous sommes à ton écoute. À très vite !